Laudetur Jesus Christus.
Ne pas perdre l'espérance, même lorsque notre histoire semble compliquée, c'est le message que le pape a voulu transmettre dans le texte préparé pour l'audience générale initialement prévue ce mercredi. Pour annoncer l'évangile, il faut déposer le poids de son passé au pied du Seigneur, a écrit le Saint-Père. Bachar al-Assad parti, les Syriens peuvent commémorer le début de leur révolution il y a 14 ans. C'était le cas hier à Daraya, un quartier de Damas qui a durement payé son opposition à l'ancien président. Les partisans d'Ikrem İmamoğlu appelés à manifester samedi. En attendant, le parti du maire d'Istanbul a lancé plusieurs appels au boycott. Détail avec notre correspondante à Ankara. La Corée du Sud, frappée depuis le week-end dernier par une vague d'incendies, 24 personnes ont déjà perdu la vie, 23 000 autres ont été évacuées. Le changement climatique accentuerait cette catastrophe naturelle.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Pour annoncer l'évangile, le pape François invite chacun à déposer le poids de son passé au pied du Seigneur. Dans le texte de sa catéchèse préparée pour l'audience générale de ce 26 mars et annulée en raison de son état de santé, le Saint-Père invite à réfléchir sur l'expérience de la Samaritaine évoquée dans l'évangile de Jean. Il a exhorté à ne surtout pas perdre l'espérance, même lorsque notre histoire semble compliquée. Myriam Sandounot.
À la Samaritaine, qui a eu 5 maris, puis un amant et dont la vie semblait sombre, Jésus a offert la plus haute révélation et lui a parlé du Père qui doit être adoré en esprit et en vérité et lui a révélé son identité, lui qui est le Messie qui peut éclairer sa vie. Pour François, Jésus a tout d'abord eu soif du salut de cette femme sans la juger ou la condamner comme les autres en raison de ses choix. De cette rencontre avec le Christ naît l'espérance et la mission. Le passé ne fut plus un fardeau pour la Samaritaine qui s'est réconciliée, souligne-t-il. Tout comme elle, le pape nous invite à remettre le poids de notre histoire et de notre passé qui nous condamne aux pieds de Jésus, plein de miséricorde, car, ajoute-t-il, seules les personnes réconciliées peuvent apporter l'évangile. François exhorte à garder l'espérance face au tumulte de la vie, et même en pareilles circonstances, nous avons toujours la possibilité de nous en remettre à Dieu et de recommencer notre chemin, rappelle le souverain pontife, réitérant que Jésus nous attend et se rend disponible juste au moment où nous pensons qu'il n'y a plus d'espérance.
Myriam Sandounot. La guerre en Ukraine, après l'annonce d'une trêve en mer Noire entre Kiev et Moscou, le Kremlin affirme que le dialogue avec la Maison Blanche se poursuit. Les contacts sont intensifs, précise-t-il. Satisfaction moindre du côté ukrainien pour Volodymyr Zelensky. La Russie ne veut pas d'une véritable paix. Pour preuve, la vague d'attaques de drones de la nuit dernière contre le territoire ukrainien, 117 drones explosifs, la plupart ont été détruits, affirme le ministère ukrainien de la Défense, mais certains ont atteint leur cible, endommageant maisons, magasins et infrastructures civiles. Dans ce contexte, des garanties de sécurité fiables sont essentielles pour Kiev. Ce sera l'objet du sommet de demain à Paris. En attendant, ce soir, Volodymyr Zelensky dînera à l'Élysée avec Emmanuel Macron. En Syrie, après la chute du régime de Bachar al-Assad, la population fête l'anniversaire du début de sa révolution. C'était il y a 14 ans. Depuis quelques semaines, des célébrations sont organisées à travers le pays. Hier soir, c'était à Daraya, un quartier de la banlieue sud de Damas, symbole des soulèvements pacifiques de mars 2011. C'est ici qu'ont été organisées certaines des premières manifestations avant que le quartier ne se fasse assiéger. Reportage à Syrie de Manon Chaplin.
Une estrade a été montée au milieu d'immeubles éventrés par les bombes, des chants révolutionnaires, des drapeaux de la nouvelle Syrie et ses habitants venus par centaines fêter l'anniversaire de la révolution dans ce quartier martyr de la guerre. Issam est de retour après 5 années d'exil.
Que voulez-vous de mieux ? La joie de voir notre quartier libéré ? Je ne partirai plus.
Daraya, à une dizaine de kilomètres au sud de Damas, est l'un des berceaux de la révolution de 2011. C'est dans ces rues aujourd'hui réduites en date grava qu'ont été organisées les premières manifestations pacifiques contre le régime. À l'époque, Ibrahim avait seulement 17 ans.
Quand tout a commencé ici, nous avions déjà pour but de faire tomber le régime. Nous étions organisés en comité civil, nous faisions tout pour que les Syriens se tiennent par la main et pour protéger la population.
Les habitants paieront ces manifestations par le sang, des massacres, une attaque chimique et un siège qui durera 4 ans. Ahmed, 77 ans, est resté bloqué dans son quartier tout ce temps.
Chaque heure, nous attendions que la mort vienne à nous. Les bombes, les explosions, la souffrance, il n'y avait même plus de nourriture. Il y avait seulement des tanks, des véhicules militaires et des hommes armés. Nous ne pouvions ni entrer ni sortir.
Khadija est venue fêter la chute du régime, mais sa joie ne peut être que partielle, dit-elle.
7 membres de ma famille ont disparu et je ne sais rien d'eux. Je les ai cherchés partout. Nous espérons vraiment que le nouveau gouvernement saura aider tous les Syriens dans ses recherches.
Au milieu des feux d'artifice, une femme lève une rose. Il y a 14 ans, explique-t-elle, c'est avec ce même geste que tout a commencé. Mais à l'époque, son fils, 16 ans, s'était fait arrêter. Adaraya Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Benjamin Netanyahou ne dévie pas d'un pouce de sa stratégie pour libérer les otages retenus dans la bande de Gaza. La pression israélienne sur la bande de Gaza sera accentuée si le Hamas ne les libère pas, a-t-il prévenu ce matin. Parmi les mesures évoquées, la prise de territoire. De son côté, le mouvement palestinien met en garde le gouvernement israélien, prévenant que des otages pourraient être tués si Israël tentait de les libérer par la force et si les bombardements se poursuivaient. En Turquie, les partisans d'İkrem İmamoğlu ont rendez-vous samedi à Istanbul pour un grand rassemblement organisé par le CHP, le parti du maire de la principale ville du pays. Hier soir, ils étaient encore des milliers devant l'hôtel de ville pour réclamer la libération du chef de file de l'opposition. Mais le CHP entend diversifier la mobilisation en appelant au boycott de médias ou d'entreprises proches du pouvoir. À Ankara, Anne Lohr.
Dans les rangs du CHP, le parti d'İkrem İmamoğlu, ou encore chez les étudiants très mobilisés, on réfléchit à l'après. Comment maintenir vivante cette mobilisation? Özgür Özel, le chef du CHP, a appelé au boycott des médias et des marques qu'il estime proches du pouvoir et qu'il accuse de censurer la contestation. Dans de grandes universités, principalement à Istanbul et Ankara, des étudiants boycottent les cours. Ils ont été soutenus mardi par leurs enseignants affiliés au syndicat Eğitim Sen, marqué à gauche, qui a appelé ses membres à ne pas faire cours pendant un jour. Le parquet d'Istanbul a aussitôt ouvert une enquête contre les dirigeants du syndicat, accusés, je cite, « d'exciter les événements survenus dans notre pays ». Zülküf Güneş, secrétaire général d'Eğitim Sen.
Nous pensons que cette enquête a pour but de créer un climat de peur pour faire cesser la mobilisation, pour faire taire toutes les organisations d'opposition. C'est une violation de nos droits inscrits dans la Constitution et dans les accords internationaux.
Malgré les pressions, le CHP prévoit de lancer d'autres appels à manifester dans d'autres endroits et d'autres manières dans les prochains jours et semaines. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
L'Arménie, toujours plus proche d'une candidature à l'Union européenne. Le Parlement a en effet voté ce matin pour lancer le processus d'adhésion. Yerevan énonce ainsi son désir de se rapprocher davantage avec l'Europe occidentale et de se dégager de la tutelle russe. Des ententes provisoires entre les Danois et l'exécutif américain. Le gouvernement danois se félicite que le vice-président Vance et plusieurs hauts responsables américains se contentent de visiter la base militaire américaine de Pituffik située au Groenland. Les autorités sortantes groenlandaises ont fait également fait part de leur satisfaction. La Corée du Sud, ravagée par des immenses feux de forêt. Depuis ce week-end, près de 12 feux différents réduisent en cendres les massifs montagneux du pays sur près de 900 km². 24 personnes ont déjà trouvé la mort dans ces incendies. Une catastrophe amplifiée par le réchauffement climatique. À Séoul, Célio Fioretti.
C'est le plus grand feu de forêt de l'histoire de la Corée. Depuis dimanche, les pompiers tentent de restreindre des feux qui ne font que s'étendre sur des terres asséchées par le manque de pluie. Nous joignons au téléphone So Jae-chol, expert de la protection des forêts et présent sur les lieux de l'incendie.
La météo est très sèche. Ces 10 derniers jours, des températures exceptionnellement élevées pour cette saison ont été enregistrées, créant ainsi des conditions propices aux incendies de forêt. Cet hiver, les précipitations ont été nettement inférieures à la normale et les températures moyennes sont bien plus élevées qu'il y a 20 ou 30 ans.
Une sécheresse qui tire son origine du réchauffement climatique, poursuit So Jae-chol.
Cette sécheresse exceptionnelle qui se prolonge sans précédent est l'un des phénomènes de dérèglement climatique observés en Corée du Sud depuis 2015, particulièrement en hiver et au printemps. Cette situation est bien documentée et fait l'unanimité auprès des scientifiques. C'est pour cela que plusieurs feux de forêt de différentes ampleurs se déclarent facilement à travers les zones boisées du pays.
Les pompiers espèrent que les orages prévus pour la journée de demain les aideront à venir à bout des incendies. C'est le Fioretti, Séoul, Radio Vatican.
Tentative d'apaisement au Tigré, le gouvernement fédéral va nommer un nouveau président de l'administration intérimaire et prolonger le mandat du gouvernement intérimaire d'un an. Les tensions éteignées dans cette région du nord de l'Éthiopie laissent en crainte d'une reprise de la guerre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.